En compagnie cette fois de Valérie Beaudoin, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis, de la chaire Raoul Landura. Madame Beaudoin, mes hommages.
Bonjour.
C'est sûr qu'on revient encore une fois sur Donald Trump. Ça, c'est mon sujet fétiche. Et cette fois-ci, s'il veut pas dévoiler ses impôts, il continue sa guerre contre les Chinois.
Oui, bon, j'ai l'impression que c'est moi aussi qui pourrais t'interviewer, François, sur le sur le sujet. En fait, oui, c'est ça. Bon, c'est là le sujet de l'heure aux États-Unis parce que, on le sait, il y a une guerre commerciale qui pointe le bout de son nez depuis longtemps entre la Chine et les États-Unis. Parfois, sont alliés, sont amis. D'autres fois, on se menace un peu mutuellement d'imposer des nouveaux tarifs douaniers. Et cette semaine, bon, les négociations, je peux m'exprimer ainsi, ont frappé un mur. On peut dire ça comme ça parce que on va imposer, ça va passer de 10 à 20 25% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars de biens chinois importés. Le président des États-Unis aussi qui a indiqué qu'il voudrait imposer encore d'autres taxes douanières sur le reste des importations. Mm-hmm. Bon, on a pris un peu le côté dur du bâton pour leur dire, ben nous, ça se négocie comme ça. On impose des tarifs douaniers, on veut que vous changiez, entre autres, la législation au sein même de la Chine. C'est ça qui est difficile aussi dans les négociations parce que ils veulent, bon, protéger la propriété intellectuelle, le transfert de technologie, les subventions aux entreprises de l'État. Et ça, la Chine, pour l'instant, ils veulent pas céder à tout ça. Où on parle un peu de menaces qui ont été faites dans les négociations, c'est que sur Twitter, parce que pourquoi pas, ça peut se passer toujours les négociations sur Twitter, sans disant à la Chine, ben finalement, écoutez, peut-être que vous espérez un démocrate qui entre à la présidence en 2020, peut-être que c'est pour ça que vous voulez pas négocier avec nous et respecter ce qu'on vous demande. Comme ça, les États-Unis pourraient continuer de se faire avoir pour 500 milliards de dollars par année. Mais je vous dis, c'est mon économie qui va le mieux et je vais être réélu en 2020. Et à mon deuxième mandat, eh bien, la négociation va être encore plus difficile. Alors, si j'étais vous, je négocierais tout de suite. Est-ce que je sais pas si je résume bien tout ça?
Tout à fait, tout à fait. Et il y en a 350 milliards aussi qu'on étudie de mettre des droits de douane de 25% supplémentaires. Alors donc, ça va prendre quelques mois à tout mettre ça en place, là, parce que c'est pas instantané, c'est pas automatique, mais il y en a vraiment pas moins que ça risque de causer beaucoup de problèmes économiques, non seulement aux Chinois, mais également aux Américains. Et par ricochet, ben, on risque peut-être d'en souffrir aussi un peu. Bien sûr qu'on regarde aussi du côté de l'Iran, le gouvernement américain qui a envoyé donc des chasseurs, des missiles là-bas. Ça aussi, là, ça commence à faire peur un peu, là.
Oui, tout à fait, parce que bon, on surveillait ça toute la semaine, on voyait des navires de guerre qui étaient envoyés, entre autres le USS Abraham Lincoln qui est un porte-avions. Bon, on se disait qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, on tournait un peu nos yeux vers là. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une certaine escalade. C'est ce que dit John Bolton, qui est un adepte, vous savez, de la ligne dure aux États-Unis, surtout envers l'Iran. Et il y a une négociation un peu bon cop, bad cop, comme ont remarqué certains analystes américains, parce que d'un côté, on dit bon, on est prêt, on va défendre les intérêts américains à tout prix, les intérêts de nos alliés. On est prêt à débarquer et à faire la guerre s'il le faut. Mais de l'autre côté, on a Trump qui tend la main en disant, ben écoutez, j'attends juste un coup de téléphone, ami de l'Iran, là, j'ai peut-être pas ami, mais gens de l'Iran, téléphonez-moi. La seule chose qu'on veut, c'est que vous ne développiez pas d'armes nucléaires. C'est assez simple comme demande. Donc, il réduit un peu les choses en se disant, ben si on se parle, mais pourtant, on a déchiré un accord nucléaire il y a pas si longtemps. Mm-hmm. Et c'est là que le problème débute. Parce que vraiment, les Iraniens sont pris à la gorge avec les sanctions économiques. C'est de plus en plus difficile d'exporter leur pétrole, c'est le nerf de la guerre, l'argent toujours, et dans leur cas, vraiment le pétrole. Alors, la population est mécontente en Iran, une population mécontente et qui n'a pas d'argent, ça peut se soulever, et c'est pas ça, bien sûr, qu'on veut. Alors, vraiment, ce qu'on a fait, l'ultimatum que les Iraniens ont fait, ils ont demandé, ils ont donné, aux Européens 2 mois pour trouver une façon de régler le conflit, sinon, ils allaient pouvoir continuer d'enrichir l'uranium, et je peux vous le dire, là, l'Union européenne, c'est pas ça qu'ils veulent, mais ils sont un peu pris entre les deux, parce que les États-Unis ont le gros bout du bâton là-dedans. Alors, vraiment, ça va être à voir, mais on n'espère pas d'escalade, on n'espère pas qu'il y ait un détroit qui va être bloqué là, parce que si le pétrole se met à être bloqué, ça sera pas
c'est le fameux détroit d'Hormuz, là.
Exactement. Alors, exactement. Alors, imaginez un instant que ça soit bloqué par un des deux côtés. Ça serait vraiment une escalade qu'on souhaite pas à personne.
Oh là là, non, parce que l'essence à 1,40 $ le litre, vous allez le trouver pas cher.
Et voilà.
Bon, et bien sûr, pour construire le mur, quand t'habilles Jacques, faut déshabiller Jean. Et c'est ce qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle. Le Pentagone qui perd de l'argent un petit peu pour aller habiller le mur.
Et voilà. Bon, ça, c'est une autre des promesses de Trump de construire son mur. On le sait déjà que le Pentagone avait débloqué des fonds pour donner pour la construction du mur. Là, il l'a fait pour 1,5 milliard de dollars. C'est des fonds, entre autres, qui étaient destinés à l'Afghanistan pour aider à former les forces afghanes sur place, aussi dans d'autres départements du Pentagone. Et le problème, François, dans tout ça, c'est, bon, c'est bien beau, eux, ils ont déplacé cet argent-là, c'est que de l'autre côté, avec l'autre main, on demande au Congrès 1,8 milliard de dollars pour aider à reconstruire des sites militaires qui ont été abîmés pendant des ouragans ou d'autres catastrophes naturelles aux États-Unis. Là, les démocrates se disent, ben écoutez, vous aviez 1,5 milliard de dollars et qui pouvait être utilisé peut-être, si vous êtes capable de l'utiliser pour le mur, pourquoi est-ce que vous l'avez pas utilisé pour la reconstruction des infrastructures? Alors, c'est un petit peu difficile après de demander plus d'argent pour l'année fiscale quand on a déplacé 1,5 milliard de dollars qui n'était pas nécessaire, entre guillemets, pour donner à la construction de ce mur-là à la frontière. Alors, c'est sûr que ça passe pas très, très bien de ce côté-là.
Et pendant ce temps-là, ben, l'avocat présidentiel, l'avocat personnel du président, je devrais dire, qui annule son voyage en Ukraine et ça fait jaser pas mal.
Oui, c'est digne d'un film, hein.
C'est celui qui a remplacé Michael Cohen, ça?
C'est Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, là, qui devait se rendre en Ukraine pour demander au procureur ukrainien d'enquêter sur les liens du fils, entre autres, de Joe Biden avec des oligarques ukrainiens. Il y avait aussi toute une question et là, ça va vous rappeler quelque chose, les Ukrainiens ont aidé le Parti démocrate et la campagne d'Hillary Clinton dans l'élection en 2016. Alors bon, c'est un peu le jour de la marmotte, mais de l'autre côté, en disant que les Russes auraient pu collaborer avec la campagne de Trump et les Ukrainiens collaborer avec la campagne d'Hillary Clinton, ça c'est une des suppositions. Alors on voulait aller faire enquête là-dessus et ce qu'on reproche à Joe Biden, c'est quand il était vice-président, d'avoir demandé la démission d'un procureur de l'Ukraine qui enquêtait sur une compagnie où travaillait son fils. Alors vraiment, il y aurait des allégations de corruption, de collusion, et c'est pour ça que Rudy Giuliani allait là. Mais bien sûr, on s'est un peu, on s'est dit, mais là, écoutez, est-ce que vous allez vraiment là pour demander de l'aide pendant qu'il y a une élection électorale, avoir de l'information sur Joe Biden? C'était assez particulier et on a mis un peu les freins à tout ça en se disant, c'est peut-être pas une bonne idée. Et Rudy Giuliani qui a finalement annulé son voyage en Ukraine.
Bon, il nous reste à peine une minute, puis je voulais qu'on parle absolument du président qui a baptisé de tout un nom. Ça a surpris tout le monde, ça, candidat démocrate. Comment il l'a-t-il appelé?
Alfred E. Newman. Que les gens le connaissent, mais ce qui est particulier, je pense pas qu'on ait le temps on a peut-être le temps d'entendre l'extrait rapidement.
So I'll be honest, I had to Google that. I guess it's a generational thing. I didn't get the reference. It's kind of funny, I guess, but he's also the president of the United States, and I'm surprised he's not spending more time trying to salvage this China deal.
Bon, alors Pete Buttigieg, qui est pas du tout dans la même génération que Donald Trump, qui a dû utiliser Google pour savoir qui était Alfred E. Newman. Finalement, il a dit, ben écoutez, c'est peut-être un petit gap générationnel entre les deux. C'est pas une blague que j'ai bien compris. Il devrait peut-être se concentrer sur la Chine. On le sait que Trump aime beaucoup donner des surnoms. Crazy Bernie, Sleepy Joe, Creepy Joe, Pocahontas. C'est certain des candidats démocrates actuels.
Seigneur. Puis lui, comment on va y trouver?
Il y en aura d'autres.
Puis lui-même a des surnoms. Sûrement. Merci beaucoup, Valérie.
Avec grand plaisir.
56 minutes. Une autre heure de terminer. On vous revient. Il y a Christian Page qui sera avec nous et Catherine Beauchamp. On va nous parler d'Alexandre Sheldon. À tout de suite.